Avant même de nous intéresser à la sécession katangaise qui survient 12 jours après la déclaration d'indépendance, voyons dans quelles conditions Elika Mokolo, cette même indépendance, se met en place et les oppositions qu'elle génère, sans oublier le rôle que joue l'ex-puissance coloniale et ses militaires.
Oui, le drame du Congo est le résultat de malentendus, on dirait entretenus à dessein, et de contradictions et d'antagonismes évidents. Il y avait d'une part l'antagonisme entre les Belges et les Congolais, les Belges qui avaient eu une colonisation très paternaliste, mais qui étaient restés paternalistes jusqu'en 1960, et les Belges qui avaient par ailleurs sur place au Congo un peuplement de colons relativement important, dont la sécurité était une préoccupation cruciale pour Bruxelles. Il y avait ensuite les antagonismes entre des partis politiques trop nombreux, plusieurs dizaines de partis, ce qui voulait dire la difficulté absolue de dégager une majorité de gouvernement. Donc le chef du gouvernement, Patrice Lumumba, ne disposait pas d'une majorité parlementaire. Et de la même manière, le président de la République, Joseph Kasavubu, n'a été élu par les parlementaires qu'au prix de négociations extrêmement laborieuses. Il y avait en outre l'antagonisme entre Kinshasa, la capitale, tout à fait acquise à l'idée de la centralisation, et les provinces, dont certaines étaient très éloignées de ce centre administratif et politique, qui rêvaient au contraire de décentralisation, voire d'un État fédéraliste. Il y avait enfin la présence sur le territoire congolais de parachutistes et de soldats belges, et en même temps d'officiers belges encadrant l'ancienne force publique devenue armée nationale congolaise. Donc tous les ingrédients d'une crise majeure à laquelle le Congo ne va pas échapper.
La sécession katangaise donc. Le 11 juillet 1960 à Elisabethville, l'actuelle Lubumbashi, dans cette capitale de la riche province minière du Katanga, au sud-est du pays, le dirigeant politique Moïse Tshombe proclame l'indépendance de sa province. Un an plus tard, au micro du journaliste français Pierre Ishak, Tshombe dresse le bilan de la sécession katangaise.
Je suis optimiste, surtout pour l'avenir du Katanga. Je n'ai pas encore perdu ma confiance dans ce beau pays. Nous avons réussi à former une communauté multiraciale. Et voilà nos principes. Et nous voulons bien, et je répète, aider nos frères de l'ex-Congo belge. Seulement, je me trouve toujours dans une situation difficile que ces messieurs ne s'occupent pas du bien-être de la population. Ils se disputent. Surtout pour des places.
Est-ce que le général Mobutu, qui se trouve en ce moment en visite au Katanga, a donné à sa mission ou à son voyage un caractère politique?
Non, son voyage a tout simplement un caractère militaire.
C'est lui d'ailleurs qui vous a libéré de vos 2 mois d'emprisonnement.
Ce n'est pas parce qu'il m'avait libéré, mais je trouve en général Mobutu comme un homme très honnête. Je trouve en général Mobutu comme un homme. S'il y avait 4 ou 5 général Mobutu à Léopoldville, eh bien, on éviterait beaucoup de difficultés.
Peut-on en quelques mots faire le point sur cette affaire katangaise, Elika Mokolo, ses causes, son déroulement, son issue?
L'affaire katangaise est l'une des affaires les plus compliquées des années des indépendances. Le Katanga était une province du Congo belge, donc un territoire découpé artificiellement à l'intérieur des frontières non moins artificielles du Congo belge. Mais à l'intérieur de cet espace, il s'est formé une sorte d'identité katangaise. Identité qui correspondait au fait que c'est la province la plus riche de la colonie, possédant de l'uranium, du cobalt, du cuivre. C'est aussi la province où les Européens sont les plus nombreux. Une véritable colonisation humaine, et ces colons, compte tenu du voisinage des deux Rhodésies et aussi du voisinage de l'Afrique du Sud, ces colons étaient acquis aux idées de l'apartheid. Et puis au Katanga, il y avait un clivage nord-sud, le sud qui était le bastion de Moïse Tshombe et le nord où les positions lumumbistes étaient bien implantées. Tout ceci a conduit donc à des velléités sécessionnistes, sans que l'on sache trop ce qu'il y avait derrière. Certains pensaient à rattacher le Katanga à la Fédération de l'Afrique centrale, qui regroupait la Rhodésie du Nord, la Rhodésie du Sud et le Malawi, pour en faire un État sur le modèle sud-africain. D'autres pensaient au contraire à une république franchement indépendante, qui aurait les moyens financiers de survivre. Pour d'autres enfin, la sécession n'était qu'une phase provisoire permettant au Katanga de renégocier sa position à l'intérieur du Congo. Tout cela a eu des répercussions considérables. D'abord la sécession elle-même, ensuite l'appel lancé par les autorités de Kinshasa à l'ONU, donc l'intervention des casques bleus de l'ONU qui ont été pris dans ces difficultés, dans ces problèmes d'une extrême complexité que le Congo connaissait alors. Et on sait que la crise congolaise vaudra la mort du secrétaire général de l'ONU, Dag Hammarskjöld, mort dans un accident mystérieux d'avion et non élucidé à ce jour, le 18 septembre 1961. Finalement, au bout de 3 années de conflit, en 1963, le Katanga rentrera dans l'ensemble congolais.